Sur FM Plus 91 FM à Montpellier, mais aussi à Latte, Pérol, Palavas. C'est avec Grégory Cayol que nous discutons des rêves de nos vies, des rêves pour nos vies. Bonjour Grégory.
Bonjour Guylaine.
Merci de revenir sur notre antenne. Dans une première émission, nous avons questionné. Voilà, questionné. Vous nous avez appris comment se poser les bonnes questions. Que voulons-nous vivre? Comment voulons-nous vivre? Avec qui? Combien d'argent? Etc. Une liste de questions la plus ouverte possible. Et aujourd'hui, Grégory, vous allez tenter d'apporter des réponses à ces questions.
En effet.
Vous êtes bien d'accord avec cela?
Exactement.
Alors, réaliser ses rêves.
C'est un sujet intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, la première limite à notre capacité à réaliser nos rêves, c'est tout d'abord de reconnaître qu'on a des rêves non accomplis pour diverses raisons. Premièrement, parce qu'encore une fois, à cause de nos insécurités, de nos peurs et de nos croyances limitantes, nous avons tendance à croire qu'on ne peut pas les atteindre ou qu'ils sont tout simplement irréalisables ou pas à notre portée. La deuxième raison, c'est que pour beaucoup d'entre nous, à réaliser que nous avons un rêve non accompli ou admettre que nous avons un rêve non accompli revient un petit peu à manifester un échec, une non-réussite. Mmh. Et par peur de se rendre compte que nous n'avons pas fait ce que nous voulions faire, nous préférons nier nos rêves et se dire que tout va bien. Du coup, ce qui est problématique ici, c'est que parce qu'on refuse cette reconnaissance, on va rester ancré dans une situation qui nécessiterait d'être solutionnée. Tout simplement. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour solutionner tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est moi qui pose ces questions. C'est la question pour l'auditeur, ça alors.
Mais c'est une excellente question. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. La première chose, une fois qu'on a réalisé qu'on avait cette problématique, c'est de se rendre compte qu'on a... on a besoin de se rendre compte de quelque chose. Premièrement, se demander, encore une fois, c'est des questions, quelle est mon approche du confort, puisque nous en parlions la dernière fois. Le confort versus le bonheur, c'est deux notions que j'aime beaucoup rapprocher, comparer, en même temps opposer. Pour beaucoup, c'est un petit peu une approche choquante, le fait d'opposer la notion de confort à la notion de bonheur. L'idée n'est pas de dire que le confort est l'antithèse du bonheur et que c'est un frein constant au bonheur universel. La question, c'est plus de le voir de l'autre côté, c'est est-ce que j'ai atteint le plein potentiel de ma vie, de ce que je voulais faire, est-ce que j'ai réalisé mes rêves? Si oui, quelle est la première barrière qui se dresse entre mes rêves et moi? Et bien souvent, cette barrière, c'est le confort qui se matérialise de différentes façons. Est-ce que c'est le confort qui fait que je n'ai pas à prendre de risques? Est-ce que c'est le confort qui fait que je n'ai pas à me mettre en danger financièrement? Est-ce que c'est le confort qui fait que je n'ai pas à travailler plus? Est-ce que c'est le confort qui fait que je n'ai pas à renoncer à des conditions de vie qui sont idéales? Et je prends un exemple, un vrai exemple, un cas concret. Une personne que je connais qui vit dans une grande maison dans laquelle elle et sa famille ne sont pas heureuses et qui souhaiterait changer de vie et changer de région, revenir dans une région dans laquelle l'ensemble de la famille était heureuse ou était heureux. La peur ici, c'est de se dire, nous avons une grande maison et des conditions de vie auxquels nous devrions renoncer pour revenir dans la zone géographique dans laquelle nous étions heureux. La question que j'aime poser, c'est est-ce qu'il est plus important d'avoir ce confort, mais d'être malheureux, ou de renoncer à ce confort et d'être heureux? La question sous-jacente, c'est quel est le vrai objectif de notre vie? Pourquoi sommes-nous là? À quoi doit ressembler chaque journée? Est-ce que l'objectif, c'est d'être heureux, ou est-ce que l'objectif, c'est d'être confortable, mais potentiellement malheureux?
Alors Grégory, une fois qu'en effet on a défini, on a finalement identifié la nature du problème, qu'est-ce qu'on fait pour lever ces freins, pour lever ces remparts, ces impossibilités à accéder à quelque chose de mieux?
Je pense qu'une fois qu'on les a identifiés, avant de pouvoir trouver comment solutionner tout ça, il faut éventuellement commencer par comprendre peut-être, chercher à comprendre ce qu'il se passe. Et encore une fois, on reste toujours sur cette idée de questionner. C'est quelque chose que je trouve très important et qui permet de prendre de la hauteur sur ce qu'on pense. Comme on le disait la dernière fois, notre capacité à trouver de manière générique, c'est une façon de parler, mais à trouver la vérité ou accéder à la vérité, c'est notre capacité à se questionner pour chercher à tester, à éprouver nos croyances et non pas pour chercher à les conforter. Et dès qu'on arrive à adopter cette démarche, on apprend souvent beaucoup et on débloque souvent beaucoup. Donc, une fois qu'on a commencé à questionner sa notion de bonheur et sa notion de confort, ou en tout cas le rapport entre les deux, je pense que c'est intéressant de détailler ou de creuser un petit peu plus ce dont on vient de parler, c'est en quoi le fait d'être qui je suis librement, je repositionne peut-être la question, quel est l'objectif de la vie au sens large? Quel est notre objectif ici, l'objectif de notre présence sur Terre? D'un point de vue personnel, j'ai tendance à croire que c'est la quête de la sagesse et qu'on est ici pour apprendre à dépasser chacune de nos lacunes et de nos faiblesses, entre guillemets, et de s'assagir, puisque c'est certainement la chose la plus qui a le plus de valeur, peut-être sur Terre, la sagesse. Qui permet de résoudre beaucoup des maux de l'espèce humaine à l'heure actuelle, ou ce qui permettrait de le faire en tout cas. Et la question que j'invite chacun et chacune à se poser, c'est quel est l'objectif de ma présence ici? À quoi va servir cette durée, ce temps que je vais passer sur Terre, ce laps de temps? Est-ce que je suis juste là pour traverser, aller au travail le matin, exécuter, naître, exécuter, mourir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je vais devoir faire? Et l'intérêt de cette première question, c'est qu'elle amène à une deuxième. Et c'est un mode de fonctionnement qui est très commun aux gens qui font de la méditation. Si je prends un petit peu de recul sur ma vie actuelle et sur la vie en général, et que j'imagine quelque chose à beaucoup plus grande échelle, je ne sais pas, peut-être l'univers ou ce genre de choses, on a tendance à s'enfermer dans nos croyances ou dans nos habitudes ou dans notre routine parce qu'on voit les choses de très près, à très petite échelle, et que tout a du sens. Mais quand on prend du recul, on se dit, ok, est-ce que c'est si important que ça de rentrer dans le moule? Est-ce que c'est si important que ça d'envoyer les bons signaux? Est-ce que c'est si important que ça de plaire aux autres? Ou en tout cas, de véhiculer, l'image que je crois que les autres attendent que je véhicule, alors que ce n'est pas toujours le cas.
Donc voilà, donc là, avant de continuer, parce que vous ne nous avez toujours pas donné les solutions, nous avons continué à questionner, Grégory. Voilà, vous avez donc essayé encore une fois d'identifier, peut-être en nous donnant déjà quelques pistes pour dépasser ces problèmes d'accès, ce que vous appelez le bonheur. Et vous avez posé la méditation comme une des solutions. On va peut-être y revenir juste après votre pause musicale.
Avec grand plaisir.
On écoute. Avec Grégory Cayol, nous parlons des rêves de nos vies et la façon de les réaliser. Alors, dans un premier temps, Grégory, vous avez posé le problème, vous avez donné une piste de solution en évoquant la sagesse, une des valeurs qui permettrait justement d'accéder à une vie pleine et entière. Ce serait comme ça, vous le diriez ? Peut-être pas complètement.
C'est une question qui est extrêmement complexe, puisque pour pouvoir y répondre, J'estime m'être assagi beaucoup ces dernières années et m'assagir continuellement chaque jour.
Dis donc, qu'est-ce que ça devait être avant?
C'était compliqué.
C'était compliqué.
Mais de là à pouvoir dire, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est sage un jour?
Ouais, sûrement pas. Est-ce que les plus grands sages de l'univers se sont déclarés sages eux-mêmes? Probablement pas.
Non, justement, je ne suis pas sûr. Et peut-être même que la sagesse, c'est de réaliser qu'on ne l'est pas tant que ça. On devient sage, bien sûr, mais peut-être que plus on l'est, plus on se rend compte de tout ce qu'il nous reste à apprendre. Et plus on sait qu'on ne sait rien, pour
oui,
reprendre une citation
ça, ouais.
qui existe.
Ouais, ouais. Alors moi, quand je vous entendais parler justement de cette valeur qui semble dans vos propos, mais je peux ne pas avoir très bien écouté, une valeur qui dépasse les autres, moi je me disais que pour moi non, c'est pas seulement ça, c'est pas premièrement ça, j'en mettrais certainement d'autres pour accéder à ce que j'appellerais, ce que vous appelez le rêve d'une vie.
Est-ce que par sagesse, est-ce que par valeur vous entendez sagesse?
Oui.
C'est la valeur en question?
Oui.
C'est parce que pour moi la sagesse n'est pas une valeur, c'est plus... c'est un logiciel, c'est le logiciel pilote qui va permettre de construire derrière ou dont vont découler nos valeurs. Être sage permet d'être bienveillant, permet d'être sain, permet d'être sain envers soi-même, permet d'être construit, permet d'être heureux, permet d'être pied, comme dans la quiétude. Il me semble qu'on peut le dire.
Ouais.
C'est plus comme ça que je vois. Donc, pour moi, la sagesse, c'est un petit peu tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce que nous n'avons pas appris, tout ce que nous n'avons pas encore débloqué. C'est autant de choses et d'apprentissage et de savoir et de savoir-faire et de savoir-penser, si on peut appeler ça comme ça, qui vont nous permettre justement de devenir bons pour nous-mêmes et de devenir bons pour l'autre, de savoir nous manager, de savoir manager l'autre. Je crois que la clé du bonheur, elle réside là-dedans. C'est cette sagesse qui nous apporte tout ça.
Ce que j'entends dans sagesse, c'est que j'entends aussi l'acceptation de situations que par sagesse, on va justement accepter et ne pas se révolter contre et ne pas prendre un coup de colère. Ouais, un sage ne prend pas de coup de colère. Or, parfois, il me semble que pour accéder à ses rêves, il faut donner un coup de pied dans la botte de paille. C'est ça, c'est en ça que ça me gêne un petit peu. J'aime pas trop être trop sage.
Je vois très très bien l'idée. Je crois que la sagesse, quelque part, en effet, permet aux sages de ne pas forcément se mettre en cause dans l'extrême, enfin on va dire dans un idéal qui est difficile à atteindre, bien que forcément on peut s'en servir tous les jours. Ça ne nous libère pas forcément de la colère de manière définitive, mais ça nous aide à nous en libérer beaucoup. Et en l'occurrence, par exemple, si je peux donner un exemple personnel, j'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu impulsif, alors pas forcément avec les autres, mais quand je faisais des bêtises ou quoi, ça m'arrivait de m'énerver. Je renverse un verre, je me mettais en colère parce que je m'énervais à cause des conséquences. Et j'ai passé longtemps à croire, comme beaucoup de personnes, que c'était libérateur de se mettre en colère. On a cette colère qui s'insuffle en nous, on a besoin de la laisser sortir. Et en m'assagissant un petit peu, je me suis rendu compte que la colère n'existait pas. Elle n'existe pas telle qu'on le croit en nous, et ce n'est pas quelque chose qu'on libère. C'est pas quelque chose qu'on stocke et qu'on évacue au moment où on la libère. C'est quelque chose qu'on crée au moment où on la libère. Avant de l'avoir libérée, elle n'existe pas. Elle est potentiellement là, mais c'est nous qui la créons quand on la libère. Si on renonce à l'expression de cette colère et qu'on laisse passer ce qui vient de se passer, on se fait un cadeau puisqu'on s'évite cette colère. Donc, de ce sens-là, oui, forcément, on peut se dire qu'on a une perte peut-être de dynamisme, enfin, vu de ce point de vue-là. Et je pense que la sagesse, ça va aussi au-delà. C'est par exemple savoir, par exemple, débloquer ses croyances limitantes. C'est savoir gérer son self-talk, sa communication à soi-même, de manière positive et bienveillante. C'est comprendre comment fonctionne l'esprit humain, et à commencer par le nôtre. Savoir comment se driver, savoir pourquoi ne pas renoncer et comment tenir bon pour ne pas renoncer. Et la première des choses, avant même d'aller chercher un projet, c'est peut-être savoir renoncer à ce qui n'est pas bon pour nous. Ce qui est très difficile et qui demande beaucoup de sagesse.
Alors en effet, vous mettez énormément de contenu, enfin de d'information dans ce mot sagesse que peut-être je voyais d'une façon très, enfin beaucoup plus limitée à ce qu'on entend par la sagesse bouddhiste, la sagesse orientale, la sagesse religieuse finalement. Vous mettez quelque chose de l'ordre de l'existence, hein, des notions de l'ordre de l'existence.
C'est quelque chose de super, c'est le mot, de très large. Je pense que la meilleure image, pour illustrer ça de manière très, très brève, mais il me semble assez efficace, c'est d'imaginer un jeune homme ou une jeune femme, une jeune fille en l'occurrence, d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années, et d'imaginer cette même personne à 80 ans peut-être, et sa manière d'appréhender un problème, ou sa manière d'appréhender un conflit, ou sa manière d'appréhender l'erreur ou l'échec, ou la réprimande, ou le jugement. Et je pense que si on arrive à visualiser l'écart entre cette même personne à deux âges différents, on a un premier avant-goût clair de ce qu'est la sagesse. C'est ce qui fait la différence entre la personne qui a X années d'expérience de vie et la personne qui ne les a pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est plus sage à 80 ans qu'à 20. Vous pouvez être plus sage à 20 ans que votre voisin à 80. Mais la logique veut que vous-même soyez plus sage à 80 que ce que vous ne l'étiez à 20 ans.
À ce compte-là, voilà. Et on espère que la personne de 80 ans qui est sage a réalisé ses rêves.
C'est tout ce que je lui souhaite.
Merci Grégory Cailhol, merci pour ce deuxième épisode avec vous sur voilà, ses objectifs de vie et la réalisation de ses rêves. On se retrouve bientôt.
Avec grand plaisir, merci.
Au revoir.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.